إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون موضوع جلستنا هذه إن شاء الله تعالى في بيان أصل من أصول الدين التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. فمن هذه الأصول كما تعلمون معرفة الله عز وجل، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل مسلم معرفة هذه الأصول، وسنخص هذه الجلسة إن شاء الله تعالى في بيان الأصل الثالث. قد يتبادر للسامع أن الأصل الثالث يكفي فيه معرفة اسمه، أي اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، أي نسبه، لكن في الحقيقة يدخل في ذلك قضايا وأمور أخرى، لهذا أدرجها العلماء. ومن بين العلماء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متنه الأصول الثلاثة، فقد أدرج تحت الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أحببت في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى حسب الوقت المتيسر لنا أن نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحصة غير كافية في بيان كل هذا الأصل، لذا خصصت في بيان بعض الأمور المتعلقة بنسبه بالأخص، أي سنذكر إن تيسر إن شاء الله بيان نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سنذكر أزواجه، سنذكر أولاده، سنذكر أعمامه، سنذكر عماته، سنذكر بعض الأمور المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحزن كثيرا، والله نحزن كثيرا أننا نجهل هذا الأصل. كم منا يعرف سير أشخاص ترف في الدنيا، أشخاص تعلقوا بها، أشخاص أخذتهم الشبهات والشهوات، لكن أن نعرف سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أصبح أمرا صعبا، أصبح نادرا منا من يحفظ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي سلفنا الصحابة وتابعوهم وتابعوا تابعيهم أسوة حسنة في ذلك، حيث نقلوا لنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سواء كانت أقوال أو أفعال أو أخلاق أو غير ذلك من الأمور المتعلقة. والدليل والشاهد في ذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب، أي الكتب المؤلفة في بيان سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنجد كتبا ما هو متوسط وما هو مطول يبين هذا الأصل، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحاول قدر المستطاع في بيان أهم الأمور المتعلقة بنسب نبينا صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. وقبل أن نشرع في ذلك، سنقرأ شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شرحه وتعليقه للأصول الثلاثة لما تكلم عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc je disais, on va consacrer cet aziz inshallah ta'ala sur un point très important, un point qui concerne la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un point très important. C'est pour ça que les savants l'ont intégré dans le dogme et dans la foi. Il faut savoir que connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit connaître ses actes, ses paroles, et même autre chose, sa biographie, où il est né, quand, qui sont ses femmes, qui sont ses enfants, qui sont ses oncles paternels et maternels, qui sont ses grands-parents, cela fait partie de la connaissance du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas suffisant de dire je connais le hadith. Ce n'est pas suffisant de dire Muhammad ibn Abdillah. Ce n'est pas suffisant cela. Le fait de connaître le reste de ces choses qu'on vient de citer, ça fait partie de réaliser le troisième fondement. Et vous savez très bien, parmi les savants, rahimahullah, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son ouvrage Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, quand il a cité le troisième fondement, et au début il a dit, il est nécessaire, il est obligatoire que chaque musulman doit connaître ces trois fondements. Le premier, connaître son Seigneur, connaître Allah Azza wa Jal. Deuxième fondement, c'est connaître la religion qui est l'islam. Et le troisième fondement, c'est connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire rapide et pour commencer la séance, je vais lire rapidement l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, juste le début de l'explication de ce troisième fondement dans son ouvrage Sharh al-Usul al-Thalatha. Et l'explication vous trouvez certainement de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Donc je disais, pourquoi j'ai préféré de lire cette introduction pour commencer, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah et le reste des savants, si on revient à toute l'explication des trois fondements de Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab, dans tous les savants, toujours, quand il arrive à ce point, certainement, ils mettent l'accent, ils précisent que connaître sa biographie fait partie de réaliser ce troisième fondement. Donc je vais lire rapidement, et comme ça on avance, Inch'Allah ta'ala. قوله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام il a dit, et le troisième fondement est connaître votre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. أي شيخ الإسلام رحمه الله il commence à expliquer, il dit أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, parmi les trois fondements où chaque homme ou chacun doit connaître, où il est obligatoire de les connaître, et qui sont la connaissance de l'esclave, de son seigneur, et de sa religion, et de son prophète. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ. Et c'est précédé le fait de l'explication de la connaissance de l'esclave, connaître son seigneur et sa religion. وَأَمَّا مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Quant à la connaissance du prophète صلى الله عليه وسلم, فَتَتَضَمَّنُ khamsata umurin. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe cinq choses. Donc, si on veut réaliser et on veut savoir si vraiment on est sur le bon chemin de la réalisation, de la connaissance du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut réaliser ces cinq choses que Cheikh Uthaymine a citées. La première est ma'rifatuhu nabiyyan, c'est-à-dire connaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. فهو أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي عربي فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر ما قال الشيخ محمد رحمه الله. Deuxième chose, معرفة سنه, connaître son âge. Ma'rifatu sinnihi. Donc le premier, on a dit, c'est le connaître en tant que prophète, et qui fait partie, et il est le plus noble en termes de descendance. Fahuwa Hashimi, il est Hashimi, il est Qurashi, il est Arabe. Et son nom, c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim. Et on aura l'occasion de détailler ce point. La deuxième chose, ma'rifatu sinnihi. La deuxième chose, c'est connaître son âge. Wa makana wiladatihi. Et l'endroit de sa naissance, ou le lieu de naissance. Wa mahajirihi, où il a fait l'immigration. Wa qad bayyanaha ash-shaykhu biqawlihi. Et Cheikh Mohammed al-Wahhab l'a détaillé, l'a éclairci, l'a dit en disant, dans son ouvrage, وله من العمر 63 سنة وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. الشيخ الإسلام محمد الوهاب il a dit, après qu'il a dit que le troisième fondement est connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté, il a dit, ou il a détaillé que son âge est 63 ans. Et il est né à Mecca et il a fait l'immigration au Médine, c'est-à-dire de Mecca au Médine. Cheikh Al-Uthaymin dit فَقَدْ وُلِدَ بِمَكَّةِ وَبَقِيَ فِيهَا 53 سَنَةً. Il dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca pendant 53 ans. Ensuite, il a fait l'immigration et il est resté 10 ans. Ensuite, il est décédé au Médine quand, le mois Rabi' al-Awwal, l'année, c'est la 11e année hijrite. La troisième chose qu'il faut connaître, qui fait partie de la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'rifatu hayatihi nabawiyyah, connaître sa vie prophétique. Wa hiya 23 sana faqad uhiya ilayhi wa lahu 40 sana. Donc sa vie prophétique a duré 23 ans et, comment on explique où il est, hein, et la révélation était à l'âge de 40 ans. Ar-rabi'u, la cinquième chose, ou la quatrième chose, afwan, bimada kana nabiyyan, avec quoi, la quatrième chose, avec quoi il était prophète. الثالث معرفة حياته النبوية أي بيان أنه بقي 23 سنة وقد أوحي إليه وله 40 سنة. الرابع بماذا كان نبيا avec quoi il était prophète. Et cinquièmement, donc sans détailler, parce que ce n'est pas l'objectif de cette assise, donc le quatrième, بِمَاذَا كَانَ نَبِيًا وَخَامِسًا بِمَا أُرْسِلَ وَلِمَاذَا. الأمر الخامس بِمَا أُرْسِلَ وَلِمَاذَا. فَقَدْ أُرْسِلَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَشِرِعَتِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِفِعْلِ الْأُمُورِ وَتِرْكِ الْمَحْظُورِ وَأُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إلى آخر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فالشاهد من ذلك أني قرأت هذه القراءة المختصرة مقدمة على البيان الأصلي الثالث من متن الشيخ الإسلام محمد الوهاب حتى نعرف قيمة وأهمية معرفة السيرة النبوية كما ذكرها. فمعرفة كما ذكر الشيخ معرفة سنه ومعرفة حياته النبوية لا شك أنها مستمدة من كتب السيرة وكتب التاريخ. Donc, on vient de savoir que Cheikh Al-Uthaymeen Rahimahou il a dit la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe cinq choses. Et on vient d'écouter que la deuxième chose et la troisième chose qui est connaître son âge et le lieu de naissance et concernant l'immigration et la troisième chose, connaître sa vie prophétique. Certainement cela on le trouve dans les livres, dans les ouvrages qui traitent la biographie. Non. Le cinquième, avec quoi il était envoyé et pourquoi. Donc c'est pour ça aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va essayer d'expliquer, de parler sur sa biographie, connaître sa descendance, ses femmes, ses enfants, ses oncles, ses grands-parents, dans la descendance on va parler sur ses grands-parents, etc. On va traiter au maximum d'informations. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que malheureusement, comme je l'ai dit au début, beaucoup, et c'est triste de ne pas connaître la biographie de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On répète combien de fois wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. T'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Si on ne connaît pas sa biographie. Et on vient d'écouter, et je le répète, connaître sa biographie, ça fait partie de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut savoir, comment on sait que c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne connaît pas ses femmes? Comment on atteste que Mohammed est le messager d'Allah et on ne sait pas ses enfants? Comment on atteste que Mohammed est le prophète et le messager d'Allah et on ne connaît pas le reste de sa biographie? Donc ça, le fait de connaître sa famille, c'est une goutte dans une mer. Qatra min bah. Parce que connaître sa biographie, c'est pas limité à connaître que sa famille. Connaître aussi Al-Ghazawat, les guerres, c'est ça? Ou les expéditions, ce qu'on appelle Al-Ghazawat. Connaître beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans le Ghazawat, on tire beaucoup de leçons. Et pourquoi on est arrivé à cette situation où l'image de notre communauté, parce qu'en réalité, on n'a pas appris, on n'a pas su, on n'a pas compris beaucoup de choses et beaucoup d'histoires concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chaque fois, et on le remarque, si on demande tel joueur, il a tel joué dans quelle équipe, Wallahi al-Azim, je l'ai écouté, vous le savez, il va décider tous les clubs où il a joué, mais tu lui demandes juste la date du naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la date. Pas plus, juste la date. Pas les ans, ces femmes, parce qu'on a 11 Ah, c'est beaucoup. Connaître juste ça, la date de naissance, ou quand est-ce qu'il est décédé, ou quand est-ce qu'il a fait le hijra, les noms de ses femmes et le reste de sa biographie, wallahi, malheureusement, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné l'intérêt et l'importance à connaître ce point, connaître sa biographie. On doit l'apprendre et par la suite apprendre nos enfants. Parce que si on n'en a pas appris, qui va apprendre aux enfants? Et ça, c'est les choses de base. Ça, c'est les choses de base. C'est pour ça que Cheikh Uthaymeen rahimahullah, quand ils nous demandaient dans ses fatawa, il dit, ils nous posaient la question, par quoi on doit apprendre aux enfants? C'est quoi la première chose par laquelle on doit apprendre aux enfants? Il a dit, il n'y a pas mieux, et je vous conseille de faire apprendre vos enfants les trois fondements. Al-usul al-thalatha, ça c'est les bases. Man rabbuk, man ma dinuk wa man nabiyuk. Connaître le base. Man rabbuk. Pas rentrer dans les détails et le faire apprendre à dire là. Non. Minimum, certaines choses sur qui est ton Seigneur. Minimum de choses, connaître quelle est ta religion. Quels sont les cinq piliers. Ça suffit, c'est largement suffisant pour un enfant. Ça c'est avec le temps, on rentre et on monte en degré, on leur fait apprendre beaucoup de choses concernant ces trois choses. Et troisième chose, qui est notre prophète, connaître au moins son nom, son père, son grand-père. Minimum de choses. Ses femmes, 3-4, au moins. Connaître ses enfants, connaître son âge, connaître au moins les bases de sa biographie. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce fondement. Donc, on revient. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à traduire une petite partie, Inch'Allah Ta'ala, on essaie de terminer aujourd'hui, mais on verra si il nous reste le temps, sinon on consacrera le reste le mercredi, Inch'Allah Ta'ala, entre le Maghrib et l'Isha, toujours Inch'Allah Ta'ala. Donc, je me suis basé, Al-Jum'a al-Sabt, fil ghalib, on khassas al-fiqh. Donc samedi, vendredi, samedi, c'est souvent, je consacre à la jurisprudence, mais vu ce point, il est très important, Inch'Allah, on va faire plusieurs séances, et même, j'ai préféré que chacun de ces Inch'Allah, on va traiter, on va faire une biographie sur une des femmes du prophète. On a 11, Inch'Allah, on va essayer chaque jour. Non, tous les mercredis, on va les consacrer au Sira. On va essayer de terminer les bases de la biographie du notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les bases. Si on arrive à terminer sur deux ou trois séances, alhamdulillah. Enfin, je ferai mon mieux, inshallah ta'ala, pour connaître les bases. Mais n'hésitez pas et faites un effort à apprendre la biographie de notre prophète. Ça, c'est les bases que chaque musulman doit les connaître. Mais ça ne vous empêche pas de choisir des livres en arabe et en mashallah. En français, Allahu a'lam. À moins le Rahiq al-Makhtoum, comment il est traduit? Le nectar cacheté, Al-Rahiq al-Makhtoum, qui est en français, mais le reste, je ne connais pas. Mais en arabe, celui qui veut des ouvrages en arabe, je lui donne une liste des ouvrages, Inch'Allah Ta'ala. Parmi ces ouvrages, sur lesquels je l'ai trouvé très très simple, et même à l'occasion, Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a un ouvrage, il a appelé Mukhtasar al-Sira, le résumé de la biographie ou du Sira. De la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre bien, je vous recommande, et les conseils pour les débutants. Et il y a beaucoup d'ouvrages. J'ai cité ça, les plus petits. Je vous conseille de revenir, par exemple, à même Mukhtasar al-Sira de Muhammad Abdul Wahhab, de revenir à Sira al-Nabawi et l'Ibn Hisham. Mais ça, à partir de Sira Nabawi, c'est plus long. Vous avez soit un gros volume ou deux volumes et plus. Sira Nabawi et Ibn Hisham. Al-Amin al-Mutawalat. Revenir aussi de Al-Bidaya ou Nihaya Ibn Kathir. Revenir à Sira A'lam al-Nubala, al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi. Et autres ouvrages. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages en arabe, alhamdulillah. Mais revenir aussi à Sir al-Ibn Kathir. Ibn Kathir aussi, il a fait un ouvrage concernant Sir al-Nabawiya d'Ibn Kathir. Aussi revenir à Zad al-Mi'ad d'Ibn Qayyim rahimahullah. Aussi dedans, il traite beaucoup de choses certainement concernant la biographie. Et autre ouvrage. Nous, et en particulier, j'ai choisi un ouvrage très simple. Je vous recommande de l'avoir, s'il est très très bien. De l'imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, l'auteur de l'Arba'in Nawawiya, l'auteur de Riyad al-Salihin, l'auteur de Sharh Sahih Muslim et autres ouvrages. Il a fait aussi un ouvrage, il est petit, c'est comme de sa taille, hein, moins que sa taille, une demi-feuille, il est moins de sa taille. Il est tout petit. Il a appelé Tahdhib al-Sunnah al-Nabawiyya. Tahdhib al-Sunnah al-Nabawiyya. Et en plus, il est authentifié. Il y a fait Tab'a Muhaqqaqa. J'ai oublié de vous ramener l'ouvrage complet et l'auteur qui a authentifié, mais moi j'ai une Tab'a qui est Muhaqqaqa. Pourquoi? Parce que on doit faire attention concernant les informations, surtout concernant la biographie. On entend beaucoup des histoires, on entend beaucoup de choses sur le prophète sallam, et en réalité ils ne sont pas vrais. On va écouter par exemple, on va écouter certaines choses qui n'ont pas vrai, malheureusement se sont propagées et répandues. Donc on va commencer. Donc je me base, donc les assises, ils seront basés sur Tahdhib al-Sunnah al-Nabawiyya ou Sir al-Nabawiyya de l'imam al-Nawawi. Tahdhib al-Sir al-Nabawiyya de al-Nawawi. Dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui est bien, il traite sujet par sujet. Parce que dans les ouvrages, vous trouvez des ouvrages qui, dans l'ouvrage, il est classé par thème par thème. Par exemple, parler sur ses noms. Et ensuite, il parle sur ses surnoms. Ensuite, il parle sur ses femmes. Ensuite, c'est un quatrième point, ses enfants, etc. En descendant. Certains ouvrages, il part sur la biographie du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais classé par date. Par exemple, hein, chronologique, voilà. Sont classés par date. Donc par exemple, il va dire la première année d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? La deuxième année d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? Etc. Donc il y a plusieurs façons où vous trouvez ça dans les ouvrages. Là, Tahdhib al-Sunnah, c'est par thème. Ça veut dire connaître, c'est-à-dire si vous voulez savoir quels sont ses noms, on va à chapitre les noms du prophète. Vous voulez savoir quelles sont ses femmes, Azwajuh, vous trouvez un chapitre qui s'appelle Azwajuh, etc. Donc, faites attention à ces ouvrages. Comme par exemple, Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Allahu Akbar. Le nectar cacheté, il est classé par événement. Par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les femmes du prophète, vous ne trouvez pas dans un seul chapitre. Vous devrez lire de Khadija, de son mariage avec Khadija bint Khuwaylid, jusqu'à la fin, la dernière femme. Est-ce que c'est clair? Pour connaître toutes ces femmes. Ça, donc c'est pas le contraire. Il y a certains ouvrages, non. Ils regroupent directement les femmes du prophète. Quelques paragraphes, ils sont résumés, alhamdoulilah. Donc, Tahdhib al-Sunnah al-Nabawiyya, il est classé de cette façon que c'est par thème. Donc c'est pour ça qu'on va faire thème par thème. Donc, qala mu'allifu rahimahullah, c'est-à-dire l'imam al-Nawawi. Donc je me base sur cet ouvrage qui s'appelle Tahdhib al-Sir al-Nabawiyya de l'imam al-Nawawi, dont on va faire la traduction, incha'Allah ta'ala. Qala l'imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharafi al-Nawawi al-Dimashqi rahimahullah. Nasabuhu. On va commencer par Nasabuhu. Sa descendance, ses parents, ses grands-parents, etc. Hein? Sa généalogie, c'est compliqué votre français, les frères. Apprenez l'arabe. Nasabuhu, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître Nasab al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Là, j'ai généalogie. Généalogie. Ah, Issa, pourquoi t'es comme ça? Nasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, huwa. On va citer son père, son grand-père, et on remonte. Et c'est juste d'écouter, parce que, à moi, si vous voulez noter, c'est autre chose. Vous voulez tout noter? Les trois premiers, d'accord, ils sont connus, d'accord. Notez. Huwa, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah. Donc là, on déduit que son père, c'est Abdillah. Ibn Abdil Muttalib. Son premier grand-père, c'est Abd al-Muttalib. Ibn Ibni Hashim. Ibn Abdi Manaf. Ibn Abdi Manaf. Ibn Qusay. Notez Ibn Qusay. Ibn Qusay. Ibn Kilab. Notez encore. Vous allez voir pourquoi je vous demande de faire. Ibn Murrah. Ibn Kilab. Ibn Murrah. Naam. Kilab. C'est arabe. C'est pas vrai. Ibn Murrah. Donc là, je vais citer le reste. Donc, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Al-Nadir, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudraka, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Bizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Donc, vous remarquez, Nasab, du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est huna, donc il faut au moins connaître 4 ou 5. Donc, où est Muhammad, Ibn Abdillah, Ibn Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdil Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Mourra. 7, 8, je sais que c'est dur, mais faites un effort. Faites un effort. Le reste, on est remonté jusqu'au Adnan, qui est le 21e grand-père. Al-Jad, Al-Wahid wal-Ishroun. On est remonté jusqu'au Adnan, qui est le grand-père numéro 21. J'arrive. Il est huna ijma' al-umma. Donc dans la chaîne, c'est-à-dire les descendants du prophète sallam, non, on ne dit pas les descendants. Les descendants, c'est nazil. Qui sont après, non, pas les descendants. Je me suis trompé. Les ancêtres, barakallahu fik, voilà. Nasabou, c'est les ancêtres, exactement. Donc les ancêtres du prophète sallam, la umma, la communauté, ils sont unanimes jusqu'à Adnan, c'est-à-dire les noms de chacun, de 1 au 21, qui est de son père Abdullah jusqu'au Adnan, qui est le numéro 21, la Ummah, elle est unanime. Mais par contre, de Adnan jusqu'au Adam, il y a une divergence. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que l'imam Nawawi a dit « Il est huna ijma' al-Ummah ». C'est-à-dire jusqu'au Adnan, ils sont unanimes que c'est la bonne, les bons anciens du prophète sallam. Wa amma ma ba'dahu ila Adam fa mukhtalafun fihi ashadd ikhtilaf. Il y a beaucoup de divergences à partir de Adnan jusqu'au Adam alayhi salam. Qala al ulama wa la yasihhu fihi shay'un yu'tamad. C'est-à-dire, il n'y a aucune information authentique qui nous prouve les ancêtres entre Adnan et Adam. Mais du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de son père Abdullah au Adnan, qui est le grand-père numéro 21, là, et c'est authentique. Mais le reste, à partir du Adnan jusqu'au Adam, il y a de divergences.
Donc ça, c'est Nasabuhu. Donc Imam Nawawi, il est terminé sur Nasabuhu. Au moins, on connaît les enceintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, on va passer Kunahu wa Asma'uhu. C'est surnom Kunya. Kunahu. Jama' Kunya. Kunahu. Donc c'est surnom, c'est ça? Al-Kunya, comment on appelle Kunya? Il n'y a pas en français, ça il a dit, il n'y a pas en français. Ah. L'essentiel. Peut-être. Ouais, ça. Ouais. C'est le nom, souvent, l'arabe c'est le nom. Le prénom c'est l'ism. Mais les surnoms, moi de ce que je connais, c'est Al-Kunya. Surnommer une personne. On a donné une. Voilà, voilà. Ouais, mais on va le traduire au moins de le surnom, si on se permet de le traduire. Donc, kunahu wa asma'uhu. C'est surnom, ou je ne sais pas comment traduire. Un kunya dans la langue arabe, c'est un surnom qui débute par Abu ou Ummu. Par exemple, Abu Abdillah. Ummu Abdillah, c'est une kunya. Est-ce que c'est clair? Mais si il s'appelle Mohammed, et je l'ai surnommé le shir. Le shir, c'est pas une kunya dans la langue arabe. Parce qu'elle ne débute pas par le terme Abu ou Ummu. Est-ce que c'est clair? Mais c'est pour ça que j'ai dit les surnoms, en français c'est plus large. Mais kunya, c'est bien précis dans la langue arabe. Est-ce que c'est clair? Tayyib. Qui connaît les noms du notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On a Muhammad, Ahmed, Mustafa, hein? Al-Amin. On va voir. Abba, c'est une kunya. Le fait qu'il débute par Abu ou Abba ou Abi, c'est une kunya. Donc c'est pas un nom. Aïe. C'est pour ça que je dis que c'est très important. Donc je vais lire. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة. Notre prophète صلى الله عليه وسلم, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. On va commencer. أفرد فيها الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها وغيره في غيرهما منها. Donc الإمام النووي رحمه الله il cite l'ouvrage de ابن عساكر. Ibn Asakir, il est connu, il a des ouvrages dans l'histoire, et certainement, il a aussi parlé sur la biographie du notre professeur sallallahu alayhi wa sallam, il est connu dans cette référence. Son ouvrage, il s'appelle Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq. Mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de points traités dans cet ouvrage. Donc lui, Ibn Asakir, dans son ouvrage Tarikh Dimashq, il a fait un chapitre où il a traité ce point qui est les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tarikh Dimashq. Dimashq. Medina, non. Tarikh Dimashq. Minha. Donc, quelques noms du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va citer. On a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأحمد والحاشر يحشر الناس يوم القيامة والعاقب والمقفي و vous notez? Je répète, on a Muhammad وأحمد والحاشر والعاقب. الله أعلم، ما بحث في معاني الأسماء. Mais je sais que Ibn Qayyim rahimahullah dans Jal al-Fahm, il a parlé sur les sens de chaque mot des noms du Prophète. Rappelez-moi la prochaine inshallah, on parle inshallah. J'essaie de trouver les sens. Donc revenons, on a al-Hashir, al-Aqib, al-Muqfi, al-Mahi. الماحي هنا خاتم النبيين، خاتم النبيين هنا نبي الرحمة، نبي الرحمة هنا نبي الملحمة. طب نوتي نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي الملحمة، ميان تاء عرفة. ونبي التوبة، نوتي نبي التوبة، ميان لي dans la lecture on prononce Nabiyu Tawbah. Donc Nabiyu Tawbah wal Fatihu. Fatihu souligné. Souligné al Fatihu. Souligné Taha. Les deux lettres Taha. On lit Taha. Mais dans l'écriture on met Ta et Ha. Taha. Souligné Taha. Et souligné aussi ياسين. و et le dernier عبد الله. Donc soulignez que ces trois mots, les trois noms الفاتح وطه وياسين. Donc je vais lire. Donc, là par exemple l'imam al-Nawawi il a cité tous ces noms. Il s'est basé sur l'ouvrage de Ibn Asakir qui s'appelle Tariq ou Dimashq. Mais quand même, dans l'ouvrage, c'est pour ça que je dis, il faut choisir un ouvrage qui est authentifié. Par exemple, dans le Hashia, dans cet ouvrage sur lequel je me base, qu'est-ce qu'il a dit celui qui l'a authentifié, il a dit, écoutez très bien, ouais. الفاتح. Écoutez, c'est pas la peine de noter, comme ça après vous résumez. الفاتح. فقد قال الذهبي في السيرة من تاريخ الإسلام الصفحة 233 أنه يروى بإسناد واهٍ من أبي الطفيل. وأما طه فذلك يروى عن ابن عباس وقد نقله عنه الكربي وهو متروك. والثابت عن ابن عباس أنه معنى طه يا رجل بالنبطية. واختار هذا القول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره. أما ياسين وكذلك طه فلم يصح أنهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما اسما صورتين من القرآن وهما مثل صاد نون ونحوهما. Ce que je viens de lire, on déduit que ces trois noms ne sont pas authentiques. C'est-à-dire, le fait de le nommer Al-Fatih et le nommer Taha et le nommer Yassin. Est-ce que c'est clair? Je viens de lire ceux qu'ils ont affaiblis, parce que ceux qui ont transmis ces noms, dans la chaîne de transmission, il y a un problème, donc c'est pour ça la chaîne de transmission, elle est faible, sur lequel on ne prend pas en considération ce qui était rapporté. C'est-à-dire, il n'y a aucun qu'une preuve ou une transmission authentique qui prouve que ces trois noms, ils sont les noms du prophète, mais par contre, ils sont des noms des sawar du Coran. Est-ce que c'est clair? Donc, et nous, on va faire attention, parce que beaucoup, on sait, même certains grands savants, ils ont considéré comme Taha, c'est un nom du prophète. Et en réalité, c'est pas Taha. Est-ce que c'est clair? On doit faire attention à ça. Et ce qui est rapporté de Ibn Abbas, rahimahullah, que Taha signifie avec An-Nabtiya, je ne sais pas quelle langue, est-ce que c'est l'hébreu, c'est dérivé de l'hébreu, Allahu alam, An-Nabtiya qui signifie ô homme, ya rajul. Donc le mot Taha, ce n'est pas un mot arabe. Est-ce que c'est clair? Ibn Abbas, il a dit que son sens signifie ô homme, ya rajul. Mais par contre, Al-Fatih et Yassin, donc ce n'est pas des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si l'imam al-Nawawi rahimahullah, il a cité. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qui est rapporté. Naam. Troisième point, ou le point suivant, Ummuhu, quelle est sa mère? Ou qui est sa mère? Qui est le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Amina, bintu man? Bintu Wahb, ahsant. Bintu, donc notez, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Amina, notez. نعم بنت وهب أحسنت آمنة آمنة بنت وهب نعم آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن عبد مناف ابن زهرة ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كلاب ابن مرة qu'est-ce qu'on dit de lui? On a dit parmi les anciens du prophète sallam on a كلاب ابن مرة et on le trouve aussi dans les anciens de sa mère. On a dit Amina بنت وهب بنت أو ابن عبد مناف ابن ابن avant ça ابن زهرة ابن ابن كلاب ابن مرة. On remarque que c'est dans le quatrième ancêtre ou le jad des rabbins et le quatrième. Il se rejoint dans la quatrième, dans le quatrième grand-père. Est-ce que c'est clair? On a Wahb, on a Abd al-Manaf, on a Zohra, et le quatrième c'est Kileb. Parce que si Kileb c'est un grand-père qui est le fils de Murra. Donc il se rejoint dans Kileb. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas Abd al-Manaf qui est dans le. C'est pas le même. Il se rejoint dans Kileb ibn Murra. Dans le quatrième, Jad. Parce que Abd al-Manaf, il est Ibn qui? Là. Et dans Nasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ibn Qusay. C'est pas le même. Est-ce que c'est clair? On doit faire attention à ça. Mais, il se rejoint à Kileb ibn Murra. Parce que si c'était juste le mot Kileb, on ne sait pas Ibn qui. Le fils, il faut voir son père aussi pour voir. C'est-à-dire, vu qu'on a le père et le grand-père, certainement c'est eux-mêmes. C'est Kileb ibn Murra. Et même dans les ouvrages de Sina, toujours il part sur ça, qu'il se rejoint dans le quatrième djed. Naam. Qui? Allah. Est-ce que frère de son. Allah, je ne peux pas dire. Allahu a'lam. Donc ça, concernant la mère ou le nom de la mère du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Wiladatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, la date de naissance ou la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est important ou pas? C'est important ou pas? Non. Mohammed, c'est pas important pour lui, Tayyib. Mais on doit savoir. Donc, ça fait partie de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question, quelle est la date de naissance du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est né ce qu'on appelle Am al-Fil. Comment il est traduit en français? L'année de l'éléphant. Am al-Fil. C'est tout? Et le jour et le mois, il est... Vous vous dites on est né de telle année? Vous dites exactement. Aïe. Quelle est la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, la date de naissance. Tarikh. Ou maulid. Mata kana maulid nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tarikh. Kana yawm al-ithnain. En revenant dans... Donc l'imam Nawawi, il précise, il dit... Les savants, ils disent qu'il est né Am al-Fil, l'année de l'éléphant. On sait qu'il est né le jour de lundi. On sait, c'est le mois Rabi' al-Awwal. Quoi d'autre? Est-ce qu'on connaît le jour dans le mois? Les ulama se sont divergés sur quatre avis. Donc on va lire Wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Am al-Fil. Il est né l'année de l'éléphant. Am al-Fil. Vous connaissez l'histoire de Al-Fil. Naam. Peut-être l'histoire sourate Al-Fil. Naam. وقيل بعده بثلاثين سنة. Ne notez pas les divergences, hein, juste quand je vous ai dénoté, notez ça. وقيل بعده بثلاثين سنة. قال الحاكم أبو أحمد. قيل بعده بأربعين سنة. وقيل بعده بعشر سنين. رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل. Même les savants, même sur l'année du fil, il y a une divergence. Donc déjà, on doit savoir, même l'année, on dit que c'est Am al-Fil, il y a une divergence. Là, on a cité, il y en a qui ont dit après 40 ans. Il y en a qui ont dit après 10 ans. Il y en a après le fil de 30 ans. Donc on remarque que déjà, il y a une divergence de ça. Mais, l'imam Nawawi, il a dit une parole, il a dit... L'avis le plus répandu, al-mashhur, est sahih, il est authentique, qu'il est né l'année de l'éléphant. Est-ce que c'est clair?
Wa naqala Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami, Sheikh al-Bukhari, wa Khalifa, Ibn Khayyat wa akharun al-ijma'a alayh.
Et certains savants, imam qui fait partie le cheikh de Cheikh al-Bukhari rahimahullah et autres savants que c'est il y a unanimité que le prophète sallam est né le jour ou l'année de l'éléphant.
Wa ittafaqu aussi ils étaient d'accord wa ittafaqu ala annahu wulida yawm al-ithnayn.
Ils sont d'accord qu'il est né le lundi. Est-ce que c'est clair?
Min shahri Rabi' al-Awwal.
Le lundi du mois Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, il est quel mois dans l'année hijrite? Le premier mois, c'est quoi? On a Muharram. Le deuxième mois, c'est Safar. Rabi' al-Awwal. Donc, c'est le troisième mois de l'année hijrite. Donc, on sait, il est né le lundi du mois, le troisième mois, qui est Rabi' al-Awwal.
وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ فِي الْيَوْمِ.
Ils sont divergés sur la date.
Sur quatre avis. Est-ce qu'il est né le
deuxième jour de Rabi al-Awwal?
Est-ce qu'il est né le huitième jour du Rabi al-Awwal? Est-ce qu'il est né le dixième jour de l'année du mois Rabi al-Awwal? Est-ce qu'il est né le douzième jour de mois ou du mois Rabi al-Awwal? Donc il y a quatre avis différents.
واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أو الثاني أو العاشر أو الثاني عشر فهذه أربعة أقوال مشهورة. Donc ça, c'est les quatre avis les plus connus. Ça ne veut pas dire pas que ces quatre avis. On se met d'accord sur ça. En plus, c'est-à-dire Imam Nawawi, il a dit que c'est les avis les plus répandus, les plus connus, qu'il y a quatre. Il y a plus que ça. Mais Imam Nawawi, il se limite à ces quatre. Je lis le passage de celui qui a authentifié le livre. Je vous dis, c'est pour ça que Tariqat est importante. Il a dit
والخلاف في هذا كبير.
Et la divergence sur ce point, c'est-à-dire quel jour dans le mois, elle est énorme et elle est grande.
ولا يمكن القطع والجزم فيه إذ لكل قول ناصروه من العلماء. ومما يحسن التنبيه عليه هنا خطأ بعض المسلمين في إقامتهم احتفالات لمولده صلى الله عليه وسلم كل عام في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذه بدعة منكرة فمن حيث التحديد باليوم الثاني عشر هذا قول وليس بالأصح ثم لو صح فهو منكر حيث لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يفعلوا الصحابة من بعد موته ولا التابعون لهم بإحسان وانظر ما كتبه سماحة شيخنا للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حول هذا الموضوع في رسالة بعنوان التحذير من البدع.
Donc là, le résumé que la divergence sur la date dans le mois, elle est énorme. Et il a dit l'erreur de beaucoup de musulmans qu'ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand dans le 12 du mois Rabi al-Awwal, il a dit déjà de dire et de préciser et de trancher, de dire que la date de naissance est le 12, déjà ça, c'est juste un avis. Et c'est pas sûr. Et c'est pas vrai. Parce que maintenant, il a cité, parmi les avis, il a cité les 4. On a dit soit le 2, soit le 8, soit le 10, soit le 12. Donc ceux qui disent le 12, déjà, c'est juste un avis parmi les 4. Donc c'est pas une certitude. Ensuite, il a dit, supposons que c'est vrai, c'est le 12, déjà le prophète ne l'a pas fait, ni les sahaba l'ont fait après sa mort, et ni tabi'un, et même après eux, ils ne l'ont pas fait. Donc on remarque, pendant les trois siècles, ou les deux siècles après la mort du prophète sallam, personne ne l'a fait. Et certainement, comme les savants le disent, si c'était bien, les sahaba, ils seront les premiers à le faire, oui ou pas. Si les sahaba, ils ont vu un bien de le faire, est-ce qu'ils ne le feront pas? Ce n'est pas possible. Est-ce que nous, on peut faire une chose que les sahaba n'ont pas fait, et surtout dans la religion, pas dans la vie, dans les inventions, dans la science, dans la médecine, etc. Là, on ne parle pas. Ça, c'est une époque, et ça, là, ils étaient dans une époque, et on est dans une époque. Mais le prophète, ce qu'il a transmis, c'est la législation, ce qu'il a dit. Quand il a dit, aujourd'hui, je n'ai pas achevé ce dîn, c'est-à-dire, c'est bon. Il n'a pas achevé. Et certainement, ni sahaba, ni tabi'in, ni tabi'i tabi'in, ils ont osé ou essayé de rajouter quoi que ce soit dans la religion. Et en particulier, de fêter la naissance du prophète sallam. Parce que nous, souvent, on dit... Parce que ça, c'est une adoration. Celui qui dit que c'est pas une adoration, c'est faux. Parce qu'il le fait en croyant que c'est le jour de la naissance du prophète sallam. Donc pour lui, il fête ça comme une adoration. C'est pas comme une fête normale. Et le pire de cas, s'il le fête, il le fête juste pour fête une date, ben on va lui dire que tashabbata bi ghayr al-muslimin bil kuffar. Parce que c'est eux qui fêtent ça. Donc minimum des choses, si c'est pas une adoration et c'est une tradition, déjà c'est une mauvaise tradition. Il faut connaître, même dans les traditions, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est permis, il y en a qui est autorisé, il y en a qui est préférable, etc. Même dans les adorations, il y a plusieurs jugements dans les adorations. Ce n'est pas parce que c'est une tradition, ben je peux le faire. Non, il y a certaines adorations, le fait que c'est une ressemblance des kofars, on est obligé de ne pas le faire. Soit des habits, soit des paroles, soit etc. Ça, c'est un autre sujet, on aura l'occasion de parler un jour, Inch'Allah. Donc, en revenant que, déjà la date de naissance du Prophète sallam, elle n'est pas précise. Et, sahaba, ils n'ont pas donné l'intérêt. Parce que pourquoi ils n'ont pas donné l'intérêt de la date et surtout le jour de le mois? Pourquoi? Avant ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt de connaître le jour du mois de la journée. Il n'y a pas d'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Ce qui est le plus important, c'est connaître la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui ou pas? Connaître est-ce que sa sunna est authentique ou pas? Connaître est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Connaître est-ce que ce qu'il a fait est authentique ou pas? Mais connaître et revenir à une date... On ne peut pas adorer Allah ou notre religion, elle ne se base pas sur des dates. Nous, on se base sur ce qu'il a dit le prophète, est-ce qu'il est authentique ou pas. C'est le plus important, ses actes, est-ce qu'ils sont authentiques ou pas, et tout ce qui suit. Mais se baser notre religion sur une date, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, s'il y avait un intérêt, le prophète, il aura dit aux sahaba que voilà, il y a une date, je suis né, il a dit, je suis né le lundi. Je suis né le mois du Rabi al-Awwal, je suis né le Amel Fil. S'il y avait un intérêt derrière ça, le Prophète, il aura éduqué et transmis aux Sahaba radiallahu anhum. Donc, ça c'est un point concernant la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut connaître que, et je vous dis même, en dehors de ce qu'il a dit Imam Nawawi, même les savants, ce qu'on appelle al-Mu'arrikhoun, les savants de. Les historiens, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Même entre eux, ceux qui se basent sur les calculs, etc., même eux, ils sont divergés, une divergence énorme sur la date précise de l'année sur le Brossel. On sait que les savants, ils sont unanimes que c'est l'année de l'éléphant, ils sont unanimes que c'est le jour du lundi, ils sont unanimes que c'est le mois du Rabi al-Awwal. Mais préciser la date du mois, là, minimum, il y a 4 avis, et aujourd'hui, on n'a aucune certitude que c'est le 12, ou aucune certitude que c'est le 8, ou le 10, ou le 8, ou le 2. Donc, ça c'est concernant la date du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, wafatuhu. Wafat. Moi je suis en train de lire Risala de l'imam Nawawi. Je ne voulais pas rajouter plus que ce qu'il a dit maintenant, rahimahullah. Wafatu, la date de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 11 quoi? Le 11 de l'année Hijrit, Ahsant. Watufiya sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître aussi, ça fait partie de l'aqidah, et dans certains autres sujets dans l'aqida, alamat sa'a, parmi les signes des derniers temps, les ulama, ils ont fait partie que wafat al-Nabi sallam min alamat qiyam sa'a. La mort du prophète sallam fait partie des signes de la fin du temps. Barakallahu fik.
Donc wafatu wa tufiya sallallahu alayhi wa sallam dhuha yawm al-ithnayn.
Il est né le jour, il est décédé le jour, le lundi, la matinée, dhuha, qui après le lever du soleil, dhuha. Un quart d'heure ou 20 minutes après le lever du soleil et avant la prière du midi, tout ça s'appelle dhuha. Donc, il est décédé le dhuha du lundi.
L'ithnatay ashara layla khalat min shahri rabi'il awwal.
Quand le 12, là on connaît le, exactement le jour de décès du mois. Donc le mois c'est Rabi'il awwal. Et le jour c'est le 12. Est-ce que c'est clair?
Et l'année, sanat ihda ashara min al-hijra.
Et l'année c'est la 11. 11e année hijrite où il est décédé. Donc on connaît l'heure, parce qu'on sait que c'est le Dhuha, on sait c'est le jour, c'est le lundi, on sait la date, c'est le 12, on connaît le mois, c'est Rabi al-Awwal, et on connaît l'année qui est 11e année hijrite. Donc on connaît, avec précision, la date de décès du prophète. Mais par contre, la date dans le mois de la naissance, on ne la connaît pas.
وَمِنْهَا نعم سَنَةَ إِحْدَى عَشَرَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
Donc, il est né ou il est décédé l'année 11e Hijri. Le fait de dire que l'année hijrite, c'est pour ça toujours on ne dit pas 11, l'année 12, l'année 13, mais on prise toujours hijrite. C'est-à-dire, à partir de quand? Et c'est vrai, c'est la référence de la date hijrite, qui est à partir quand? À partir de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Mecca au Médine. Est-ce que c'est clair? Quand il a fait l'immigration de Mecca au Médine, à partir du moment où il a fait l'immigration, cette année, elle est devenue la référence hijrite.
Donc quand on dit on est dans 1431, c'est-à-dire ça fait 1431, il a fait al-hijra, l'immigration de Mecca au Médine. Est-ce que c'est clair?
Donc c'est à partir de laquelle c'est la référence de la date hijrite.
Il reste combien de temps pour la fin? Je peux lire une faïda, mais je prends pas la question. On va passer au suivant, Inch'Allah.
Le point suivant. Dafnuhu wa umruhu.
Son enterrement et son âge. Rapidement.
Dufina yawm al-thulatha'i hina zalat ash-shamsu.
Voilà, il était enterré le mardi, c'est-à-dire le lendemain. Après-midi, c'est ça? Après-midi, ba'da zawal.
وَقِيلَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَ.
Il y en a qui ont dit que peut-être c'est le mercredi, sur le jour de son enterrement. Donc soit le mardi ou le mercredi.
وَتُوَفِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
Donc, et son âge, وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ وَسِتُونَ سَنَةٌ. À l'âge de 63 ans. À l'âge de 63 ans.
وَقِيلَ خَمْسٌ وَسِتُونَ.
Il y en a qui ont dit 65.
وَقِيلَ سِتُونَ سَنَةٌ.
Il y en a qui ont dit 60.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُ وَأَشْهَرُ.
Et le plus authentique et le plus répandu que c'est le premier qui est 63 ans. Remarquez même, il y en a, ils ont dit 60. Pourquoi? Parce que ils se sont divergés sur l'année. Est-ce que c'est clair? Parce que pour connaître son âge, on sait que c'est la 11e année hijrite. Mais le problème, c'est l'année de naissance. Il y en a, ils ont dit Amel Fil. Il y en a, ils ont dit 3 ans d'après. Donc c'est pour ça, c'est réduit ou c'est rallongé. Est-ce que c'est clair? Donc ça dépend de ça. Mais, vu que c'est l'année, ils sont unanimes que c'est l'année du fil, et la date de décès c'est le 11e Hijrit, donc ils ont déduit que c'est 63 ans. Donc il y a certains détails, on essaie de...
ومات جده عبد المطلب وله ثمان سنين.
Donc là on parle sur le décès de son grand-père. Donc on a dit هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. Donc son grand-père c'est عبد المطلب. عبد المطلب est décédé quand le prophète sallam il a eu l'âge de 8 ans. Donc ça c'est une information.
وَقِيلَ سِتَّ سِنِينَ.
Et il y en a qui ont dit que 6 ans.
وَأَوْصَى بِهِ إِلَى أَبِي طَالِبٍ.
Donc, son grand-père, c'est lui qui s'occupait de lui. Est-ce que c'est clair? Son grand-père, qui est Abdul Muttalib, c'est lui qui s'occupait et qui se chargeait du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans ou de 8 ans du prophète, de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a délégué à son qui? Il a son oncle paternel, Al-Am, qui est Abu Talib. Abu Talib. On verra par la suite, inshallah, quels sont menhum a'mam wa ammat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'âge de 6 ans, 8 ans, il est décédé son grand-père Abdul Muttalib, et qui a délégué son petit-fils, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ila ammihi Abi Talib. Juste une parenthèse, une faïda. Hikma azima. L'ulama, yani, subhanallah, istanbatu hikma wa faïda. Ils ont dit, et subhanallah, ça c'est ajib. Ils ont dit, parce que, subhanallah, pourquoi, en parenthèse, je veux dire, pourquoi pas en premier temps, son oncle s'est occupé de lui directement. Et pourquoi? Si c'était son grand-père, si lui le premier, ensuite son oncle paternel. Qui connaît cette nukta, cette leçon? On a dit, le premier qui s'occupe de lui, c'est Jeddo. Ensuite, après il est décédé, c'était Ammu Abu Talib. Ils ont fait une remarque sur ça. Même sur ça, ils ont parlé, ils ont fait des commentaires. Non, ça n'a rien à voir. Certainement, c'est Allah Ta'ala qui a mis que c'est son grand-père. Mais, les ulama, ils ont tiré une leçon. Subhanallah. si on a des grands-pères qui sont assis avec nous, peut-être ils seront pour toi. Non. Les grands-parents, ils pourront répondre à ça. Ça, c'est une hikma, je vous réponds, parce que je l'ai coupé. Une hikma que le lien entre le grand-père et le petit-fils, il est plus fort que l'oncle avec son neveu, ou ouais, son petit-neveu. On remarque le grand-père, il est toujours ahen. Voyez, af. Le grand-père, avec son petit-fils, toujours il est doux, il s'occupe de lui plus que les autres. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Le grand-père, toujours, avec son petit-fils, toujours il est aziz. Il s'occupe de lui peut-être des fois plus que ses parents. Et demandez vos grands-parents. Le grand-père, toujours, quand il a un petit-fils, pas un fils, certainement, même si c'est ses fils, mais quand il a un petit-fils, toujours il s'occupe de lui plus que les autres. Soit des fois il oublie ses enfants, mais ses petits-enfants, il les aime beaucoup et plus. C'est pour ça Allah Ta'ala, il a mis la garde du prophète sallam par son grand-père. Parce que à la base, le grand-père, il est toujours, il a un lien plus fort avec son petit-fils par rapport aux autres, subhanallah. Et ça, c'est le humain, ils ont tiré même, ils ont remarqué ça. Revenons. Wa matat ummu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lahu sitta sinin. Wa lahu sitta sinin. Donc là, on passe au la mère du prophète sallam. Il est décédé quand? Quand le prophète sallam, il avait quel âge? 6 ans. Wa qila arba'a sinin. Il y en a qui ont dit 4 ans. Wa matat bil abwa'a. Elle est née quand? Dans l'endroit qu'on appelle Al-Abwa, qui est un endroit, il est entre Mecca et Médine. Il est entre les deux. Il s'appelle Al-Abwa. Matat bil Abwa. Ah non, elle est morte, Afwan. Elle est morte à Al-Abwa, un endroit, Baina Mecca wal Médine. وَبُعِثَ صلى الله عليه وسلم il était envoyé un messager aux gens وَهُوَ إِبْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً à l'âge de combien? À l'âge de 40 ans. وَقِيلَ أَرْبَعِينَ وَيَوْمٍ il y en a qui ont dit 40 ans et un jour. Remarquez la précision.
وَأَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثلاثة عشرة سنة.
Il est resté à Mecca après qu'il est il est devenu prophète 13 ans. Donc là on déduit qu'il est resté à Mecca 13 ans.
وقيل عشرا وقيل خمسا 15 سنة. ثم هاجر إلى المدينة.
Ensuite il a émigré au Médine. On sait l'histoire de l'immigration de Mecca au Médine.
فأقام بها عشر سنين.
Il est resté au Médine 10 ans. Donc on déduit 13 ans à Mecca, ensuite 10 ans au Médine. C'est pour ça qu'on a dit la vie prophétique a duré 23 ans. 13 plus 10.
بلا خلاف. Il n'y a pas de divergence sur ça. وقدم المدينة يوم الاثنين.
Il est rentré au Médine après quand il a fait l'immigration. Quel jour? Le lundi. De quel mois?
Rabi' al-Awwal, subhanallah. L'ithnatay ashara khalat min shahri Rabi' al-Awwal.
Donc vous remarquez? Non. Le lundi du Rabi' al-Awwal. J'ai pas dit le deuxième. Naam. Ensuite, on va passer.
Murdi'atuhu. Ceux qui l'ont allaité.
Naam. مرضعاته من مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ها حليمة با حليمة حليمة السعدية ميايين أفون نعم ما اسمها لا لا
البحث لا 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 تبدأ بالثاء الله أزدع أرضعته ثويبة ثويبة بضم المثلثة مولاة أبي لهب أياما على ألتي كلكو جور مولاة أبي لهب ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن حارث السعدية.
Donc la deuxième, donc la première c'est Thouaïba. Et la deuxième, elle a allaité que quelques jours. Et la deuxième, Halima, ce qu'on appelle Halima al-Sa'diyya, ou Halima bint Abi Dhu'ayb, Ibn Harith al-Sa'diyya. Thouaïba, al-Tha' wal-Waw, wal-Ya' wal-Ba' wal-Ta' ثويبة
est-ce qu'on attend pour la chute
c'est l'heure oui vous faites un signe comme quand j'arrive voilà non
ونشا صلى الله عليه وسلم يتيما
donc il a grandi le prophète صلى الله عليه وسلم orphelin
يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب
donc on a dit que son grand-père c'est lui qui s'occupait de lui à l'âge de 6 ans 8 ans et ensuite s'est passé la garde à son oncle qui est Abu Talib là on vient de prononcer on entend beaucoup le terme yatim nasha'a نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما que signifie يتيم même si en français on traduit par orphelin que signifie يتيم ليس له أب وليس له أم هاي quoi d'autre orphelin que signifie orphelin يتيم الأبوين on verra Il est éduqué par autre que ses parents. Non. Il ne les a pas connus. Non. Et le fait de dire qu'il n'a pas son père et sa mère, c'est faux. Je parle de la définition dans la législation. Hein, c'est pas ce qu'on connaît. Normalement, la définition de l'orphelin, ou le terme yatim, et ça, il a répondu correctement, il a dit « Men mata » أبوه دون البلوغ دون البلوغ l'orphelin en réalité c'est celui qui est décédé son père avant qu'il atteint l'âge de puberté je précise celui qui meurt son père et deuxième condition avant qu'il atteint l'âge de puberté c'est à dire si une personne ses parents sont décédés, on ne le considère pas yatim. Dans le dîn, dans le shara. Nous, on peut, parce que c'est devenu qu'on l'appelle yatim. En réalité, dans le shara, il ne fait pas partie de l'yatam. Parce que l'yatim, c'est ça. Man mata abuhu dun al-bulugh. Donc, on doit faire attention à ça. Ou, si, même s'il n'a pas atteint l'âge de puberté, et sa mère qui est décédée, on ne l'appelle pas yatim. Il a besoin, il fait partie de ceux qui les nécessiteux peut-être, mais on lui donne pas exact, c'est-à-dire il mérite pas le terme yatim. Même si on rentre nous, on le dit, hein, parce qu'il est yatim, c'est vrai. Mais dans la législation, normalement, وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ دُونَ الْبُلُوغِ Et c'est vrai, le prophète sallam, مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُوغُ Et c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on trouve نَشَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتِيمًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك